Bayou is the New Black invite artistes, designers, philosophes, scientifiques et ingénieurs à explorer les multiples questions éthiques, critiques et de création qui se posent avec les technologies de biofabrication. Aujourd'hui, nous partageons une interview avec Marguerite Benoni. Nous sommes au CRI, Centre de Recherche Interdisciplinaire de Paris. Merci de cet accueil chaleureux malgré la situation compliquée. Cet enregistrement a été fait fin septembre 2020.
Bio is the new black.
Tout d'abord, peut-être une question de positionnement, Marguerite. Qu'est-ce que ça apporte, change, ou qu'est-ce que ça fait importer d'être une designeuse et maintenant une chercheuse, en tout cas bientôt, très bientôt une chercheuse, dans le milieu où tu te trouves, qui est, et dis-moi si c'est peut-être pas assez précis, en tout cas un laboratoire de biologie.
Alors, être chercheuse dans un laboratoire, c'est pouvoir un peu s'aligner aussi avec les autres chercheurs et avoir un statut un peu équivalent qui va permettre d'être légitime et de se sentir légitime et dans cet environnement qui est fait en fait que de doctorants, de post-doctorants et de chercheurs dans le cadre de mon laboratoire, c'était CNRS. Ou universitaire, Université Paris Diderot, mais il n'y a pas d'autres designers, et puis il y a deux ingénieurs de recherche sur une équipe de 70 personnes, donc on est assez peu d'objets non qualifiés.
Oui, donc tu te retrouves un petit peu comme un électron libre, dans un laboratoire donc qui étudie des questions de biologie. Et au fond, oui, peut-être que ce qui apporte la thèse, ou en tout cas le cadre de faire une recherche dans cet environnement-là, c'est que de fait, tu as la légitimité d'être ici, puisque tu es à ta place, ce qui est peut-être un petit peu différent. On a eu un dialogue donc avec Xavier Montois, avec Lisa Dehove et puis Arthur Donald-Bouillet, où effectivement, cette question de la légitimité et des rôles au sein des collaborations, elle est pas si évidente que ça, puisque bon, on va en parler un tout petit peu après.
Oui, tout à fait, parce que je participais à chaque lab meeting du labo pendant les 3 années que j'ai passées sur place. Après, j'ai passé 1 an hors du laboratoire pour écrire, pour préparer le travail, et puis j'ai aussi fait un autre projet, qui est lié à de l'enseignement plutôt, où je suis allée dans un autre lieu, ici au CRI, pour faire collaborer les designers et les chercheurs ensemble, on en reparlera. Mais oui, cette question de qu'est-ce que je viens faire, qu'est-ce que je peux apporter aux chercheurs qui portent la légitimité de la vérité, c'est un peu compliqué, quoi. je vais pas changer leur méthode de travail, je vais pas leur apprendre à faire de la recherche.
Donc ça remonte peut-être à longtemps, peut-être là maintenant, mais... Donc, comment est-ce que tu t'y es pris, donc, concrètement, pour faire ce travail de terrain?
Alors, j'ai commencé ma thèse un peu avant ma thèse, parce que j'ai commencé par un stage où j'ai passé 5 mois à travailler sur un des projets de recherche du laboratoire. Et si ces 5 mois devaient être aussi un préambule à l'observation, j'ai pas du tout fait d'observation, parce que j'ai vraiment que fait du projet. J'ai manipulé, j'ai appris à me servir des outils, à connaître les fournisseurs, à appréhender un peu l'environnement aussi. Ce qui a fait que j'étais déjà familière des lieux, mais les observations que j'allais faire n'avaient rien à voir avec le projet que j'ai fait. Enfin, j'avais quand même à réapprendre ce que c'était que cet espace... où travaillaient les chercheurs, et puis à questionner qu'est-ce qu'un laboratoire sous ses multiples dimensions. Je faisais un projet très simple, je travaillais sur des fourmis, et il fallait leur construire une fourmilière. Alors, pour mon directeur de thèse...
C'est pas si simple.
si, parce que le projet, c'est donc un projet de recherche, c'est donc dans un laboratoire de biophysique, c'est des projets qui se construisent sur du long terme, c'est pas sur le temps d'une thèse ni sur le temps d'un stage. Donc il y avait déjà des éléments qui avaient été établis par d'autres stagiaires et par d'autres chercheurs avant. Du coup, j'arrivais avec un bagage et il fallait que je le fasse avancer sans forcément l'aboutir. Donc j'avais pas fallait que j'aille le plus loin possible en intégrant une question de design, mais c'est plutôt les questions de Xavier. Xavier Montois, qu'est-ce que designer pour des micro-organismes?
Oui, pour du vivant, ouais, bien sûr.
Mais Je ne savais pas les contraintes d'un projet de design tel qu'on me l'avait enseigné à l'école, parce que je sortais de l'école à l'époque. Donc,
Oui, donc tu as fait l'école Boulle.
Oui, j'ai fait l'école Boulle. Cette envie de mêler design et biologie, c'est venu pendant mon projet de diplôme, pendant mon stage entre la première et la deuxième année, au moment où je cherchais un sujet pour mon projet de diplôme et j'avais toujours un attrait, c'est un peu cliché, hein, mais pour le vivant, pour les sciences du vivant. C'est marrant parce qu'en regardant mes projets de BTS et de MANA, je les ai ressortis il y a pas longtemps. Il y a toujours ce fil conducteur sur à travers les projets que j'ai menés sur la prolifération, l'invasion, la question du vivant, de la contamination. J'avais toujours quelque chose un peu comme ça, sans que ce soit forcément esthétiquement retranscrit, mais il y a quelque chose qui m'avait jamais trop quitté là-dessus. Et donc je l'ai retrouvé en plein pour mon dessin parce que j'ai cultivé des bactéries pour en faire des sortes de peaux de cellulose pour en proposer des usages. Maintenant ça se fait beaucoup hein, mais
oui mais à ce moment-là c'est peut-être qu'il faut rappeler en termes de contexte c'est que t'étais donc à la paillasse qui était pas dans son lieu à Saint-Denis, mais qui était dans un squat. C'était les tout débuts de ce laboratoire un peu de hacking et de bricolage.
À Vitry-sur-Seine, ouais.
À Vitry-sur-Seine, et donc c'était, je pense, un endroit, comment dire, vraiment inhabituel, et surtout au moment où tu l'as fait, c'est quoi, c'est 2013 ?
Ouais.
Et donc il y a 7 ans, peut-être maintenant, effectivement, il y a eu des rétrospectives, il y a eu des grandes expositions sur vivant et design, que ce soit à Broken Nature, que ce soit justement l'expo qu'il y a eu aussi à Pompidou il n'y a pas longtemps. On n'en était vraiment pas là, en fait, je pense. Il y a eu, oui, peut-être Design and the Elastic Mind qui avait eu lieu au MoMA, juste à ce moment-là, peut-être.
Il y avait eu ça, et en fait, ce qui a déclenché aussi, c'était le projet iChromie d'Izzy Ginsberg et James King. Et ça m'avait incité à contacter James King pour faire un stage avec lui. C'est comme ça que je l'ai rencontré, et qui m'a encouragée à aller dans cette direction, et qui depuis ce temps-là, on communique encore pour parler des trajectoires.
Peut-être on peut rappeler un petit peu qui est James King.
Alors James King, c'est un designer d'interaction qui avait fait le département de design d'interaction au Royal College of Arts, et qui a participé en 2009 à la compétition de biologie synthétique iGEM. Et il avait participé avec Daisy Ginsberg sur le projet iChromie, où leur intervention de designer était d'avoir organisé un workshop avec les étudiants qui travaillaient sur la pigmentation de bactéries en contact de biomarqueurs spécifiques.
Donc les biomarqueurs sont des molécules qui marquent pour un certain type...
C'est une molécule qui réagit au contact d'une autre molécule.
Oui, et du coup on peut voir, par exemple, s'il y a eu un contact avec une maladie ou ce genre de choses, ouais.
Ça peut être...
Un agent pathogène.
Exactement. Et du coup, ils avaient imaginé tout un tas de scénarios, ils avaient scénarisé un peu la technologie que les étudiants avaient développée, parce que c'était vraiment une technologie, c'était pas l'état d'un projet, et ils avaient amené donc des petits prototypes de ce qu'ils avaient imaginé au MIT à l'époque. Et ça avait énormément fait parler, ils avaient remporté la compétition et ils avaient du coup, ça avait permis d'énormément communiquer à la fois sur la compétition iGEM, mais aussi sur le fait qu'il y a des designers qui s'intéressent aux questions de biologie de synthèse et qu'il y a quelque chose à explorer au niveau de ces questions-là. Toute la sémantique du design,
Oui, effectivement, toute la sémantique du design se retrouve dans ce cours de biologie synthétique où on va programmer et fabriquer le vivant à dessein et plus seulement venir l'étudier ou l'observer. Ouais.
C'est ça, et vu que c'est un concours qui se déroule en anglais, dans un pays anglophone, avec une communauté majoritairement anglophone, et où la recherche, même en français, se fait en anglais, les chercheurs designent des organismes vivants.
Mais oui, c'est vraiment le terme anglais qu'on retrouve énormément, oui, dans la recherche, puisqu'elle est publiée majoritairement en anglais.
C'est ça.
Effectivement.
Il y a cette ambiguïté un peu sémantique qui fait que ça avait fait énormément de bruit et de communication. Des designers aussi, on n'a pas que des chercheurs qui designent, on a des designers qui designent des bactéries. Et ouais, moi j'avais rencontré le projet à ce moment-là et ça en a fait beaucoup d'autres après. Hein, avec j'ai participé à iGEM, Marianne Cardon aussi à l'ENSI en 2014, il y a eu après l'équipe de Pasteur.
Oui, il y a eu du monde après toi.
Ouais, ouais. Et juste pour revenir sur la paillasse, c'est marrant parce que du coup, donc en 2013, j'avais rencontré la paillasse quand ils étaient en résidence à la Gaîté Lyrique avec le TMP Lab, qui est un groupe de hackers parisiens. Ils étaient un peu greffés au projet pour communiquer, faire parler d'eux. Et ça m'avait amené à aller à Vitry un peu plus tard pour réaliser mon projet. Et j'avais rencontré donc Thomas Landrin, qui est le fondateur de la paillasse, qui est maintenant au CRI.
Oui, qui était anciennement cofondateur de la paillasse et qui maintenant se retrouve avec un très beau projet, un tout petit peu différent, qui s'appelle Joggle, Just One Giant Lab, et qui est donc une initiative qui prend la forme d'une plateforme numérique, mais pour faire de la science ouverte, collaborative, citoyenne, sur des sujets très très variés, et qui a eu finalement un gros succès là dans cette période troublante qu'on vit avec l'épidémie du Covid, puisque finalement ça a permis de rassembler un certain nombre de gens pour vraiment apporter des choses sur cette question-là. Ouais.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes dans Bio is the New Black avec Marguerite Benoni pour discuter des pratiques de design dans les laboratoires de biologie.
Sur une question d'outils, je te demandais comment est-ce que tu t'y prenais pour étudier ce terrain, mais peut-être en termes de forme, est-ce que ça prend la forme de notes comme dans des carnets anthropologiques? Est-ce qu'il y a du dessin? Est-ce qu'il y a de la photo? Est-ce qu'il y a de l'interview? Est-ce qu'il y a, je sais pas, de la cartographie? Quelle forme ça prend? Peut-être ça prend tout ça à la fois.
Oui, exactement. Ça prend toutes ces formes. Ça prend beaucoup de dessins au début, beaucoup de dessins d'observation. Mais très vite, j'ai été confrontée au fait qu'en biologie, rien n'est observable. Enfin, je me suis rendu compte que le laboratoire était un espace beaucoup plus difficile à observer que ce que je pouvais imaginer. On voit pas les organismes desquels on parle. Et puis les chercheurs ont des projets très individuels. Ils ont tous des projets différents qui sont regroupés et qui sont unis par le directeur d'équipe. Mais c'est très difficile. Enfin, j'ai trouvé au début que c'était extrêmement difficile d'observer et d'en dégager une unité. Et du coup, une des plus grandes questions que j'ai eues pendant toute ma recherche, c'est mais qu'est-ce que c'est que ce laboratoire? Qu'est-ce qu'un laboratoire? Comment on peut le définir? Parce que c'est tous ces projets, c'est ce lieu, mais c'est aussi tous ces espaces qu'on ne voit pas. C'est un laboratoire. Est-ce que c'est ce qui se passe dans le congélateur, dans le moins 80? C'est finalement le laboratoire archivé, mais c'est aussi le laboratoire. C'est le futur du laboratoire, parce que c'est ce qu'on garde pour plus tard.
Quand tu poses cette question-là, qu'est-ce qu'un laboratoire? Moi, j'étais venue voir une petite présentation que tu avais fait, que j'avais trouvé, qui m'avait vraiment, complètement ouvert les horizons, où finalement, t'interrogeais, est-ce qu'un laboratoire, c'est pas aussi une puce microfluidique? Mmh. Est-ce qu'un laboratoire, c'est le rhizome de connexion entre les acteurs? C'est vrai que la description que je me suis un tout petit peu amusée à faire avant, c'était finalement, presque le cliché du laboratoire, hein, les paillasses qui s'entassent, qui s'alignent.
C'est le laboratoire dans lequel je suis partie faire mon expédition, mais ça m'a amené à me questionner quel est le plus petit dénominateur commun du laboratoire. Est-ce qu'on peut en faire une réduction sans le réduire, quoi. Et j'ai un peu travaillé à ça à travers trois projets qui marquent un peu mon terrain. Donc ces trois projets, le premier c'est une description que j'ai passé les six premiers mois donc à faire beaucoup de croquis, de schémas, de cartographie, exactement ce que tu décrivais dans ta question, d'observation, beaucoup d'entretiens aussi avec chaque chercheur, beaucoup de notes, des prises de notes, d'enregistrement, des heures passées à retranscrire. Et ça m'a apporté un matériau tellement hétéroclite j'en étais perdue, impossible d'en voir une unité cohérente en me disant, mais mon travail, c'est de me dire qu'est-ce que le laboratoire, mais là, j'en sais rien. Donc, j'ai repris cette question avec le directeur d'équipe, celui qui chapeaute un peu, qui est censé un peu piloter ce laboratoire.
Détenir la vision d'ensemble.
Voilà, et donc, j'en sors un modèle à partir d'un entretien qui a duré plus de 2 heures avec ce directeur, et pour comprendre comment on le construit à travers un parcours de chercheur, comment on construit un laboratoire, et en imaginant que c'est un modèle récurrent.
En tout cas, tu fais l'hypothèse de tester ce modèle.
Voilà.
Et ce modèle, est-ce que tu peux nous le décrire un tout petit peu?
Oui, bah c'est... que le laboratoire se construit à travers l'expérience indirecte, enfin l'expérience passée. L'arbre un peu généalogique de la recherche du directeur d'équipe, une expérience au présent qui est son installation dans les locaux avec le matériel dont il a à disposition et une vision qu'il porte sur le futur, sur ce qu'il envisage et sa propre vision en fait du futur de la science. Ouais. C'est les schémas qu'il projette et ces trois espaces assemblés forment une unité laboratoire.
Quand je t'écoute, forcément, je pense à la projection aussi qu'il y a dans le design. Et en tout cas, la projection à la fois stratégique, mais qui n'est pas qu'une projection stratégique, qui est une projection imaginative de ce que peut être la science, telle que tu l'as décrit là dans ton troisième pilier, elle a une place en fait qui est prépondérante. Et parfois, enfin, le prérequis peut-être qu'on peut faire, en tout cas quand on connaît un peu moins bien ces terrains-là, c'est que... au fond, on est dans une espèce de pensée de découverte très peut-être rationaliste, très objectivante, un peu froide, où au fur et à mesure des tests expérimentaux, on va aller découvrir de nouvelles choses, de nouveaux territoires. Bon, bien sûr, c'est vrai, mais ces nouvelles choses et ces nouveaux territoires, ils ont des images, ils ont des imaginaires, et ils nous appellent à une certaine façon de faire science, qui effectivement dépend des individus. Mais dépend aussi des images partagées, des discussions collectives et peut-être aussi de la culture. On en parlait un tout petit peu là avant off, où tu me citais le travail d'une chercheuse qui justement interroge cette question-là de la place de la culture dans un laboratoire.
Oui, Sophie Houdard, dans La Cour des Miracles, qui est une enquête, alors il faudrait vérifier aussi, une enquête ethnographique ou une enquête anthropologique d'un laboratoire japonais qui travaille avec la drosophile comme organisme modèle et elle questionne la spécificité culturelle du laboratoire japonais. C'est un laboratoire qui a une double entité, qui a une antenne aux États-Unis et du coup il y a un renversement de situation entre le Japon et puis Hawaï, il me semble.
D'accord. Oui, le Japon, enfin...
Le Japon, enfin, le laboratoire qui est situé au Japon et puis l'antenne hawaïenne.
On peut imaginer des questions d'animisme ou
voilà.
Autre. Ouais, super intéressant.
C'est la question qui va sur le futur et les imaginaires, c'est ce que tu portes dans ta thèse, finalement.
Ouais, c'est ce que j'aime, c'est ce que je voulais porter depuis le départ, qui en fait partie, et qui, je pensais, moi... un peu naïvement, l'interroger par des outils de design spéculatif et puis aller chercher donc d'autres imaginaires, en tout cas avec eux. Et je me suis vite rendu compte, mais qui est en fait quelque chose de peut-être assez qui était assez naïf de ma part, mais que cette question d'imaginaire, elle est tellement liée aux pratiques, en fait, que maintenant, je me retrouve plutôt à faire avec eux. Et en faisant avec eux, on interroge ces images et ces imaginaires, mais au fond... j'ai ce besoin de les accompagner là-dedans et parce que disons spéculer sur le futur c'est un peu pour moi je retrouve que c'est un petit peu un évitement du présent au fond c'est un peu le cheminement que j'ai fait en tout cas pour l'instant.
Oui, je suis d'accord avec ça. En tant que designer, on peut arriver naïvement en se disant, on va dire aux chercheurs de travailler autrement, mais il y a quoi? Il y a deux siècles d'histoire du design, même pas un siècle et demi, histoire du design derrière nous, et encore avec un lourd passé industriel.
Il y a des millénaires de science.
2000 ans, un peu moins quand même de recherche scientifique, mais...
Oui, si on écoutait Tore Sottsass, le design a toujours existé, sinon il n'existerait pas, mais... Bon.
Mais on lui reconnaît, voilà.
Mais on lui reconnaît une certaine naissance, disons, qu'on s'est aussi accordé par ailleurs au fait que la naissance du design se situe plutôt autour de 1750. D'autres diront, comme Ettore Sottsass, qu'elle se situe au Silex, mais...
C'est illusoire de se dire qu'on va rentrer dans le laboratoire et on va amener des outils du design ou changer les pratiques. Il y a un travail beaucoup plus fin à faire et la première partie de mon terrain, c'était... comment on entre petit à petit avec ces outils de design. Alors au début, c'est timide, c'est à la fois maladroit et c'est presque ornemental. Et puis au fur et à mesure, on arrive à apporter un regard, des solutions, des discussions qui peuvent faire sens et qui peuvent prendre leur place dans le laboratoire.
Enfin, moi, de ce que je ressens là, c'est le temps long de la recherche. qui est quand même assez différent de la temporalité, qui est quand même relativement plus courte des projets design. Mais peut-être ça nous fait une transition toute trouvée pour parler de l'article.
Ouais, sinon je voulais rebondir sur iGEM, moi.
Mais... Ah oui, bah vas-y.
Parce que justement, je ressortais d'un projet iGEM juste avant de commencer mon stage au laboratoire. Et du coup, j'étais sur une insertion assez brutale du design. Hop, je suis une designer, je fais partie d'une équipe... avec que des chercheurs, mais il faut faire un projet, et puis on a 6 mois, donc on y va. Et puis donc j'imaginais que dans le laboratoire ça allait être un peu pareil, et en fait pas du tout. Enfin c'était illusoire.
Oui, donc oui. Et puis il y a ce prérequis là dans ce que tu dis de design égal projet. C'est pas vraiment égal, mais le design n'existerait pas sans un projet de design qui donc se matérialise à une forme. Nous, on vient toutes les deux donc de la même formation. On a fait du design d'objets à l'école Boulle. C'est encore plus, je pense, présent en fait quand on a fait ce genre d'études, de se dire design égale projet égale objet. Donc oui, ce temps long rebat un peu les cartes, mais aussi je pense qu'on se rend compte que cette vision peut-être très, au fond, un peu solutionniste du design et qui existe très franchement à iGEM, mais qui est aussi porté par un peu, comment dire, technosolutionnisme américain, quoi. Donc, il y a les deux qui se mêlent. Pour nous, c'est très confortable. On a fait toujours que ça, des projets. Donc, on a beaucoup d'engouement, en fait. Et à la fois, bon, on se rend compte que sur des questions qui lient le vivant, la programmation, etc., on peut pas, en fait, juste se mettre des œillères et puis se dire, ouais, on fait des projets, quoi. Ouais, c'est plus compliqué que ça. On en a un tout petit peu parlé avec Xavier, avec Lisa. Enfin non, pas un petit peu. On en a beaucoup parlé avec Lisa, Xavier et puis Arthur. Et c'est vrai que eux, en tout cas Arthur nous racontait un peu ce choc. Arthur Donald de tu te retrouves à avoir une relation un peu de travail finalement un peu violente où il faut faire un projet absolument. Où par ailleurs il est brillant, donc il fait un projet super intéressant en équipe. Et puis merde, en fait, est-ce que j'avais vraiment envie de le faire, ce projet? Est-ce qu'il a vraiment du sens pour moi par rapport à ma pratique, par rapport à ce que je veux être comme designer? Et lui et notamment Xavier, ils se sont retrouvés finalement à s'éloigner peut-être un peu de pratiques conventionnelles du design pour aller se mettre dans des démarches plus expérimentales, voire un peu plus plastiques à la suite de ça. Mais donc c'était très riche comme retour, quoi.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes dans Bio is the New Black avec Marguerite Benoni pour discuter des pratiques de design dans les laboratoires de biologie.
Dans un article From Guest and Guide to Collaborators, Negotiating Roles in Design and Biology Collaborations, que l'on peut traduire en français par négocier des rôles dans les collaborations en design et biologie, depuis les invités et les guides jusqu'aux collaborateurs, que tu as coécrit avec Nolwenn Maudet et qui est paru très récemment, là en mai 2020, dans la revue scientifique The Design Journal. Vous revenez sur une forme d'asymétrie que vous avez observée toutes les deux dans les rôles et les postures entre designers et biologistes. Ces collaborations, vous les avez observées d'un côté à Paris, de l'autre à Tokyo. Et ce qui revient le plus souvent, en tout cas c'est ce que vous avez pu voir, c'est que les biologistes sont des guides pour les designers qui eux-mêmes deviennent des invités dans un temps qui est assez court dans le laboratoire de biologie. Puis, dans ce cadre, la relation, elle est en quelque sorte un peu déséquilibrée, puisque les biologistes ont la connaissance de leur discipline, ils agissent comme des influenceurs et voire des décideurs, en fait. Vous avez un exemple qui montre assez bien ça. Et il y a un phénomène donc que vous explicitez à la fin de l'article et que je trouve vraiment particulièrement intéressant, qui est l'exclusion totale des biologistes à la fin du projet quand les designers sont en phase de production. Et dans le cadre précis ici, à savoir d'une exposition, dans le cadre de production des objets pour l'exposition qui avait eu lieu, en tout cas qui était prévue à chaque fois à la fin des collaborations. Et donc vous soulignez voilà comment les designers s'emparent finalement du processus, tandis que les biologistes sont garants du contenu. Donc peut-être on peut revenir un peu sur ça, enfin sur ce travail-là, mais je me demandais moi à titre personnel à quel point finalement l'autorité du sachant, du scientifique, enfin au fond de l'autorité de l'autorité qu'on prête à la science, aux sciences, elle joue pas un rôle en fait super important peut-être dans cette dynamique-là. Aussi peut-être en quoi l'âge et le sexe des participants a peut-être aussi à voir avec ces déséquilibres-là. Puis aussi, bon, enfin, ça fait plusieurs questions, mais comme ça, tu rebondiras sur celle qui te paraît peut-être la plus intéressante pour toi. Tu me confiais aussi que cet article, il avait été, comme c'est toujours le cas, hein, mais largement retravaillé pour les besoins éditoriaux de la revue. Qu'est-ce qui n'y apparaît pas et qui est quand même important, voilà, qui a mené à cet article-là, que vous aviez envie d'y mettre, ou enfin, disons, ouais, peut-être toutes ces choses-là qui font pas partie de cet article-là.
Je vais revenir un peu sur le contexte dans lequel on a fait cette étude. Donc c'était pas du tout sur des projets de recherche de long terme. Mmh. C'était vraiment des projets de court terme comme iGEM, encore plus court que iGEM. C'était sur 6 mois, mais pendant un temps scolaire fait avec des étudiants en master à chaque fois et des post-doctorants ou des au maximum post-doctorants, donc des biologistes en début de carrière. L'idée, c'était de travailler, de faire collaborer ensemble des designers et des biologistes pour participer à un concours qui s'appelle le Biodesign Challenge et participer à une exposition qui avait lieu à Tokyo quelques mois plus tard. Donc, il y avait vraiment l'idée de faire projet dès le début, dans les deux cas de collaboration, un peu comme c'est le cas à iGEM, comme on vient de le dire, et d'avoir des équipes très équilibrées, avec autant de designers et autant de chercheurs dans toutes les équipes, pour partir sur des rapports de force très équilibrés entre le savoir créatif et le savoir scientifique, enfin, l'apport créatif et le savoir scientifique. Donc, c'était un peu l'idée de base. Tous les projets se sont bien passés, mais on a suivi, on avait quand même avec Nolwenn suivi de chacune de notre côté un peu les projets, leur méthodologie, et puis on a demandé à chaque chercheur, et chaque biologiste et chaque designer de nous refaire un retour sur leur expérience et retracer un peu l'historique de leur projet d'après ce qu'ils en ont perçu, donc de mémoire. Donc c'est un peu ce qui leur restait. Et à partir de là, donc on a retracé les rôles de chacun. Au début, on avait fait une première version de l'article qui porte un regard un peu plus critique sur les collaborations, parce que finalement, l'article qui est sorti est assez neutre, il expose ce qui se passe, sans amener de recommandations, ce qu'on souhaitait faire, sans évaluer un peu ce qui s'est passé. Bon, c'est pas scientifique d'évaluer, enfin de donner notre avis, mais...
Non, mais c'est important aussi de soulever les limites.
Voilà. Et donc, on avait fait une première partie sur les rôles et une deuxième partie sur... on questionnait, est-ce que la biologie ne serait pas prise comme un matériau dans ces cas-là, plus que comme une discipline à part entière? Parce que dans tous les projets, ce qu'on remarquait, c'est que la matière biologique était vraiment matérialisée par du vivant. Les designers se sont jamais questionnés sur les pratiques, comment on faisait, qu'est-ce qu'il y avait derrière comme théorie, qu'est-ce que ça portait. Ils l'ont vraiment pris comme si c'était du bois ou du plastique ou du métal, un matériau à travailler. Et c'est ce qu'on remarque beaucoup dans les projets de biodesign, en fait. On va utiliser le vivant avec un prétexte écologique parce que ça consomme pas d'hydrocarbures pour les faire grandir, et on va fabriquer des briques de mycélium, de la silose bactérienne. C'est un écueil dans lequel je suis tombée aussi pour mon projet de diplôme.
Je trouve cette réflexion super intéressante quand tu dis un écueil. Moi j'ai un peu en tête peut-être ce que tu sous-entends, mais peut-être est-ce qu'on peut essayer de l'expliciter ou de se questionner là-dessus. C'est pas parce que le matériel est biologique, et donc il y a ce qu'on appelle la biomédialité, que ce serait forcément écologique. Ce serait vertueux, disons du design vertueux par essence, quoi.
Oui, c'est un message qui est beaucoup porté par les fondateurs du Biodesign Challenge. Et qui est vraiment dommage. Le biodesign, c'est une approche écologique du design, en fait, pour eux. Alors que c'est pas du tout pensé comme ça. Et puis, du coup, le vivant est seulement considéré comme un matériau. C'est considéré comme un matériau supplémentaire à travailler, dont il faut outiller les designers pour les travailler. Alors que notre rôle n'est pas d'être outillé, mais notre rôle, c'est quand même de penser par les projets, en donnant forme. Et ça, c'est pas du tout compris comme ça. Pour nous, quand on arrive, je pense qu'on est aussi, en tant que designer, fasciné par un peu cet univers qui est totalement étranger. C'est ce que tu décrivais très bien dans l'introduction. On arrive dans un endroit inconnu, même si le labo, on le connaît tous. On le connaît tous parce qu'on l'a tous vu, mais en même temps, on l'a jamais vu. Donc, c'est chouette, je vais pouvoir regarder les trucs au microscope. J'utilise des boîtes de pétri. C'est beau, c'est transparent, il y a du vert partout. C'est un univers complètement fantastique.
C'est vrai.
Mais souvent, on s'arrête là et c'est dommage parce que derrière, il y a Bah, il y a beaucoup plus. Il y a des pratiques qui sont des héritages. Il faut comprendre ces héritages pour voir comment on les fait. La question du lieu, la question de la destination aussi, de pourquoi on fait ces projets, pour qui. En tant que designer, c'est ce qu'on devrait poser et c'est ce que les biodesigners posent pas assez quand ils traitent ça quand ils traitent la bactérie comme un matériau, un nouveau matériau.
Oui, il y a une espèce de double mouvement un peu bizarre là dans ce qu'on raconte. C'est à la fois on reproche quelque part, ou en tout cas on souligne le fait que les designers évitent le projet. S'intéresse uniquement à un matériau avec une touche de fascination, et à la fois on dit aussi qu'il faut pas non plus s'empêtrer que dans de la projection. Donc il y a un truc qui est quand même complexe en tant que milieu.
Bah du coup je pense qu'il faut penser le penser comme une discipline. C'est on travaille avec des biologistes, on travaille pas avec la biologie, la biologie en tant que discipline. Donc c'est avec des pratiques et c'est peut-être au niveau de ces pratiques qu'on peut interférer. Alors interférer soit par des projets, soit par des projets de recherche de thèse, soit voilà.
Par des articles, par du des dialogue, articles, voilà. par des communications, des journées d'études. Enfin, ça peut prendre plein de formes.
Exactement. Il faut aller, pour moi en tout cas, on devrait essayer d'aller au-delà de la fascination de la matière. On devrait aller explorer ce que c'est que cette discipline de la biologie qui existe depuis...
Et qui a une histoire.
Et qui a toute une histoire. Et...
Qui a une histoire liée aux instruments d'observation. Qui a
à la médecine.
À la médecine. Une histoire liée à, je pense, la biologie moléculaire qui arrive à un moment assez précis. Dans les années 60, il y a un écrit particulièrement reconnu de Jacques Monod qui écrit vraiment une nouvelle histoire en fait du vivant. Une histoire vue sous l'angle très cybernétique de programmation. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de choses en fait qui commencent à changer pour la façon de faire de la biologie. Aujourd'hui, on pose des questions un petit peu différemment avec l'écologie, qui sont plus des questions de milieu. Et cette histoire-là aussi, elle est en fait, c'est sûr que si on fait du biodesign ou en tout cas du design avec des biologistes, on devrait pouvoir s'intéresser à ça, quoi.
Il y avait une équipe, un projet sur lequel on avait vraiment travaillé cette question de la pratique et qu'on avait sélectionné pour présenter à la finale du concours du Biodesign Challenge. Au concours, ça avait intrigué, mais c'est pas ça qui était passé. C'était décalé, c'était différent. Et toutes les autres équipes, toutes les autres écoles avaient engagé ça avec la question de la matière. Ils l'avaient traité comme un projet d'iGEM. L'équipe de l'école Boulle et du CRI avait appréhendé ça sous la forme de la pratique et questionné les instruments. C'était un premier niveau, mais qui était déjà...
C'est le projet de Minimal Laboratory,
ouais.
C'est ça?
Ouais.
Peut-être on peut le décrire un tout petit peu, ne serait-ce que dans la forme. Donc ça prend un peu la forme d'un sorte de kit.
Voilà.
Avec quelques outils extrêmement simples de laboratoire, quelque chose pour faire chauffer avec une bougie.
Voilà, l'idée, c'était de reprendre une expérience qui avait été développée par un doctorant en biologie de synthèse qui travaille sur la détection des OGM dans de la nourriture. Donc,
d'accord.
Savoir si...
Super intéressant.
Ouais. Sur si ce qu'on consomme contient ou non des OGM par rapport à une base de référence. Et elles avaient à la fois questionné qu'est-ce qu'on pouvait faire de cette technologie, parce que... Il n'avait pas pensé aux usages forcément. Enfin, il y avait un discours très établi sur les OGM, mais qui n'était pas forcément critique, mais juste une question de connaissance, de mise à disposition de la connaissance, sans en penser les usages et les applications. Plus les usages. Qu'elles avaient réfléchi à ces usages et elles avaient identifié que sur cette expérience qu'ils proposaient, en fait, il fallait en questionner les outils. Donc, sans proposer l'outil le plus adapté à l'usage commun, elles avaient questionné comment on refait cette expérience ailleurs, comment on la décale de cet environnement très laboratoire et on la propose pour d'autres différents schémas d'usage, d'autres schémas. Et donc elles avaient fait, elles avaient travaillé avec une céramiste pour faire des petits pots. Alors il y avait toute la symbolique du feu et de la poterie, du feu et de la terre qui revenait.
C'est assez beau, oui. Ça fait presque objet rituel en fait.
Voilà, c'était l'idée qu'elles avaient pour un peu faire un contraste entre cette hyper technologie et en fait les outils qui peuvent être très simples, qui servent à animer cette technologie. Mais donc le projet avait été vraiment salué, tout le monde le trouvait très curieux, voilà. Mais mais je pense qu'il y avait pas une mécompréhension parce que c'était pas assez bien expliqué, l'ambition qu'il y avait derrière était mal exprimée.
Question d'attente
aussi peut-être, et donc vous avez pas été récompensé pour ça. Mais
en nous écoutant, je suis en train de me dire en fait il y a un gros travail à faire, enfin que tu fais, que auquel peut-être je participe, qui est de aller chercher des nouvelles images, des nouvelles façons de raconter ces projets-là de collaboration entre biologistes ou technologues qui interrogent la biologie. Enfin, il y a plein beaucoup d'acteurs en fait qui interrogent la biologie aujourd'hui, et designers. Et en fait, ça demande un effort assez important en termes d'investissement, de pas tomber dans ces travers un peu faciles de biomédialité, mais pas que en fait, de même en fait en tant que designer, de qu'est-ce qu'on fait avec ça, et on peut pas faire la même chose quoi.
Je reviens à mon travail de recherche de thèse, c'est casser l'image du laboratoire. Travailler différemment pour les designers, pas forcément pour les chercheurs, mais en tout cas
ouais,
pour nous quoi.
Tu as le plus marqué là dans ce que tu as pu étudier là dans ta thèse, des choses qui t'ont vraiment...
Ma thèse, je te l'ai un peu raconté déjà dans les premières questions sur qu'est-ce que fait un designer ethnographe, et en déroulant ce que j'ai fait, c'est les productions de ma thèse, donc c'était pour questionner quelle place pour le design dans le laboratoire, est-ce qu'il y en a une, et aussi quel design pour le laboratoire, comment on le pense pour d'autres publics, pour des designers, comme on vient d'en parler, pour casser cette image aussi et pour le décomposer. Ma thèse, c'est trouver le, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est trouver le plus petit dénominateur commun au laboratoire. Ça revient un peu aussi à ce que fait Thomas Landrin maintenant dans Joggle, en disant le laboratoire c'est plus un espace matérialisé. Enfin, une des propositions de Thomas Landrin, c'est de dire le laboratoire c'est réunir des compétences et des expériences, donc c'est organiser une communauté.
Ouais, c'est super intéressant. Oui, la question de la communauté est super importante dans le travail de Thomas Landrin, enfin en tout cas sur la plateforme quand on s'y inscrit. Il y a une invitation à venir répondre aux défis de l'ONU. Il y en a 17. Je pense que c'est tout le truc aussi de comment tu fais pour effectivement trouver le dénominateur commun, créer un cadre, et sans être trop normatif aujourd'hui, à l'issue de ces collaborations. Parce qu'au fond, ce qui se passe aussi avec, je pense, disons le Biodesign Challenge ou la IGEM, c'est que c'est devenu un petit peu normatif peut-être. Tu veux rajouter un petit quelque chose ?
Non, merci.
Non, bah oui, merci à toi.